Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Nous arrivons au dernier chapitre, le cinquième de cette première lettre de l'apôtre Pierre que j'ai commencé à étudier un peu avec vous au cours des mois passés. Nous allons prier. Oui, Seigneur, je te remets ce message, afin que ce ne soit pas mes paroles, Seigneur, mais que ce soit vraiment ta parole qui soit prononcée, qui soit reçue, Seigneur, car c'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. Amen. Donc, quand quelqu'un prend la peine de nous écrire une lettre, à l'heure actuelle, ce n'est pas tellement souvent le cas, hein, mais bon. Quand quelqu'un prend la peine de nous écrire une lettre, en général, cela vaut le coup de la lire jusqu'au bout. Donc, c'est ce que nous voulons faire avec cette épître, car l'apôtre a encore des choses, des enseignements à nous apporter. Alors, nous allons lire, donc, d'abord ce chapitre 5 de l'épître, la première épître de Pierre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui nous sont échus en qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Le verset 1, donc, de ce cinquième chapitre, nous dit « Moi, ancien comme eux ». La première chose que je remarque dans cette exhortation adressée aux anciens, c'est l'humilité de Pierre. Il est un apôtre reconnu, jouissant d'une grande réputation dans l'Église de Jérusalem. celui à qui Jésus avait dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et cela faisait suite à sa déclaration qui était une révélation du Père Céleste, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est ainsi que Pierre avait parlé à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre était un apôtre plein de fougue, de foi, de certitude, pensant que lui seul n'abandonnerait pas le Seigneur. Et quand Jésus annonce à ses disciples qu'ils vont être scandalisés, c'est-à-dire qu'ils vont être choqués par ce qui arrivera, le berger va être frappé et les brebis dispersées, Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. C'est important. Il est bon de remarquer que tous dirent la même chose. Et nous connaissons bien sûr la suite. Lors de l'arrestation de Jésus, premièrement, tous s'enfuirent. Et ensuite, Pierre renia le Seigneur. Je ne rappelle pas cela pour juger l'apôtre a posteriori. Ce serait trop facile. Car qui d'entre nous aurait résisté dans ces circonstances? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé ensuite et comment le Seigneur ressuscité a réhabilité l'apôtre. Cela nous aidera aussi à comprendre les recommandations de l'apôtre concernant l'humilité, justement. Voyons en Jean, chapitre 21, après la résurrection, donc, de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » À ce moment-là, Jésus sait très bien que Pierre, après son reniement, a réfléchi, qu'il a pleuré, qu'il s'est repenti et humilié devant Dieu. Il sait que ses prétentions humaines ont été en quelque sorte brisés. Pierre peut-il encore être utile au Seigneur? Saura-t-il témoigner dans l'opposition? Lui qui a renié, comment pourrait-il enseigner les autres? Autant de questions qui devaient se bousculer dans l'esprit de Pierre. Pierre l'a renié 3 fois. Jésus, pour le restaurer et le réhabiliter, lui pose 3 fois pratiquement la même question. M'aimes-tu? Pour Pierre, qui a compris la leçon, plus question de dire qu'il aime le Seigneur plus que les autres. Plus question non plus de s'appuyer sur ce qu'il pense être capable de faire. Dans ses réponses, il s'appuie sur ce que Jésus sait. Il est à nu devant le Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une deuxième fois, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Une troisième fois, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. On pourrait paraphraser. Tu savais à l'avance que j'allais te renier. Tu sais toutes choses. Tu connais mon cœur. 3 fois aussi, donc, le Seigneur lui confie une nouvelle mission, plus seulement d'être un pêcheur d'hommes, mais d'être un berger et de paître ses brebis, de les conduire, de les nourrir, de les enseigner, de les soigner. Paie mes agneaux, paie mes brebis, et encore paie mes brebis. Pierre, qui a donc été établi berger donc sur l'Église naissante, s'adresse aux anciens avec le même langage que le Seigneur. Au verset 2 donc, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Et d'après la question fondamentale que le Seigneur lui a posée, nous comprenons que la question que Jésus nous pose aussi, si nous voulons conduire l'Église, c'est « M'aimes-tu ?» Aimer le Seigneur Jésus, le souverain berger, être nourri de son enseignement est primordial si l'on veut aimer les brebis du Seigneur et en prendre soin. Les brebis ne sont pas les nôtres, mais celles du Seigneur. Quand on veut servir Dieu, on ne doit pas chercher une place dans une congrégation religieuse ou dans une hiérarchie religieuse. Il faut avant tout aimer le Seigneur et le servir lui. Donc Pierre s'adresse aux anciens. En Israël, ce terme était employé pour des personnes chargées de juger dans les affaires civiles et religieuses. Le Sanhédrin, par exemple, était composé de sacrificateurs, d'anciens du peuple et des scribes. Dans le Nouveau Testament, on trouve quelques termes employés pour désigner des responsables. On trouve les mots « ancien », « évêque » et aussi « pasteur ». Comme il est question de troupeaux et de brebis du Seigneur, c'est un langage pastoral qui est utilisé, la mission étant de paître et de garder. Donc le mot « évêque » qui veut dire « surveillant », pasteur, donc berger, et ancien. Ancien, ça ne concerne pas seulement l'âge, bien que ça ait un petit rapport quand même, mais pas trop, c'est surtout qu'il y a une certaine ancienneté dans la foi et qui en connaît les fondements, qui donc est amené à veiller sur l'Église. Ces diverses expressions donc désignent ceux qui conduisent l'Église du Seigneur. On comprend par cette exhortation aux anciens que les églises auxquelles Pierre écrit étaient conduites de cette façon, avec un groupe d'anciens. Il en est de même dans celles implantées par Paul. D'ailleurs, c'était probablement les mêmes. Il y avait une collaboration et un enseignement commun des apôtres et de ceux qui les secondaient. On voit par exemple que Silas, qui était à Jérusalem, après va ensuite avec Paul dans ses voyages, dans son voyage missionnaire. Donc il y a eu des collaborations entre les différents serviteurs qui accompagnaient les apôtres. Il y avait une unité de foi, hein, une unité de message. Dans les Actes au chapitre 20, nous lisons « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Donc là, c'est le terme « ancien ». Et plus loin, au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc on comprend dans ce passage que les termes « ancien » et « évêque » désignent les mêmes personnes. On comprend aussi que c'est le Saint-Esprit qui établit, même si les hommes interviennent dans le choix. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses et qui établit. On comprend que ce troupeau, c'est l'Église de Dieu. C'est pas la nôtre, c'est l'Église de Jésus-Christ. On comprend que Dieu s'est acquis cette Église par son propre sang. Donc, cela nous incite au sérieux et à l'humilité. Si on est conscient du sérieux de la charge et de la responsabilité, bien entendu, on peut hésiter. Mais on peut néanmoins avoir des aspirations au service du Seigneur. Et si, comme nous l'avons vu précédemment, l'amour du Seigneur est dans nos cœurs, nous pouvons humblement l'envisager. Il y a pour cela, comme dans une fiche de poste, des critères à respecter. Et c'est ce que Paul indique à Timothée au chapitre 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ce n'est pas le propos pour moi dans ce message d'analyser chaque critère, mais je ferai remarquer que cela concerne toute la vie de l'aspirant à la charge d'ancien. Son témoignage dans l'Église, dans sa famille et dans le monde. Je vous invite aussi à lire dans l'épître de Paul à Tite au chapitre 1, les versets 5 à 9, d'autres passages qui reprennent donc les mêmes critères de choix des anciens. Mais je ne vais pas faire tout ce message sur ce sujet-là. Je voudrais revenir maintenant à la lettre de Pierre. Que dit-il dans son exhortation ? Premièrement, qu'il faut servir volontairement et non par contrainte. Paul dit aussi aux Corinthiens, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. La deuxième chose que Pierre dit, c'est qu'il faut servir avec dévouement, non pour s'enrichir. Et vous savez très bien que la recherche du gain est très souvent une caractéristique des faux apôtres et des dirigeants de sectes. Jésus avait dit à ses disciples, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et Paul rappelle aux Thessaloniciens, « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. » Troisième chose que nous apprenons pour les anciens, pour les dirigeants, sans dominer, mais en étant des modèles. Dans 1 Timothée, au chapitre 4, verset 12, Paul dit à Timothée donc, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Nous voyons que l'on peut être jeune et être envoyé comme responsable. Quand Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, je comprends que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Ou, autrement dit, ne donne à personne l'occasion de mépriser ta jeunesse. Sois un modèle. Dominer sur les autres, c'est ce qui pratique dans le monde. Et Jésus disait à ses disciples, Jésus les appela et il leur dit, « Vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Au verset 4, Pierre nous parle de récompense et de couronne. Et Paul fait de même dans 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il n'y a pas que des apôtres comme Paul qui auront la couronne, c'est tous ceux, à vous, tous ceux qui auront aimé son avènement, qui l'auront attendu avec persévérance, qui auront œuvré pour et avec le Seigneur. Et comme dira Pierre dans sa deuxième épître, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Œuvrez pour répandre la parole, le royaume, pour hâter l'avènement du Fils de Dieu. Après, au verset 5, donc après les recommandations aux anciens, Pierre s'adresse aux jeunes. Alors cela peut être des jeunes en âge, mais aussi des jeunes dans la foi. Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la soumission s'apparente plus au respect et à la considération qu'à l'obéissance servile. Les jeunes ont souvent tendance à critiquer les plus âgés, et inversement. Nous oublions notre jeunesse. Donc, mais si l'on considère que ceux qui sont depuis longtemps dans la foi et le service ont probablement plus de connaissances et d'expérience que les plus jeunes, les paroles de l'apôtre sont simplement des paroles de sagesse. Il ne doit pas y avoir dans l'Église du Seigneur de conflit entre les générations. Mais l'œuvre du Seigneur doit se poursuivre de génération en génération. Et pour que les doigts ne soient pas pointés que vers les jeunes, l'apôtre élargit son propos à tous. Dans toutes les relations que vous avez entre vous, revêtez-vous d'humilité. Depuis le début de ce chapitre, le maître mot est l'humilité. Humilité des anciens, humilité des jeunes, humilité de tous. Combien les rapports dans les familles et aussi parfois dans les églises seraient simples si l'humilité était dans les cœurs. Mais comme cela se voit dans le monde, les difficultés et les conflits apparaissent dès que l'orgueil, l'ambition, la prétention, la suffisance pointent le bout de leur nez. Dans les Proverbes, chapitre 13, verset 10, nous lisons « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Il faut être humble pour écouter les conseils. Et Pierre cite le Proverbe 3, verset 34 « Il, c'est-à-dire Dieu, se moque des moqueurs, c'est-à-dire ceux qui tournent la sagesse en dérision. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Pierre n'était pas un moqueur, ni un orgueilleux, seulement un peu présomptueux, on va dire. Mais le Seigneur l'a fait passer par cette leçon d'humilité, comme nous l'avons vu au début, avant de lui confier la charge de l'Église naissante. C'est la volonté de Dieu de nous élever jusqu'à lui. C'est ce que nous voyons verset 6. Mais pour cela, il faut que nous nous humilions devant lui. Il n'y a pas de vraie conversion sans la repentance. Et ensuite, nous pouvons être amenés à nous humilier devant le Seigneur plusieurs fois dans notre vie, si nous constatons que nous devenons présomptueux ou orgueilleux. Mais quelquefois, c'est simplement par amour propre que nous voulons porter nous-mêmes nos fardeaux et nos soucis. Alors là aussi, il faut nous humilier devant Dieu et décharger nos soucis devant lui et retrouver la confiance totale dans sa bonté. Car l'apôtre dit, car lui-même prend soin de vous. Et l'apôtre Paul aussi nous dit dans Romains 8, 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Comme il nous l'a dit au chapitre 4, Pierre nous le redit ici, « Soyez sobres, veillez. » Car il y a une réalité invisible, mais bien présente, que l'apôtre illustre avec cette image du lion. L'adversaire, le diable, rôde pour nous faire chuter et nous dévorer. Mais nous pouvons lui résister avec une foi ferme. Nous n'avons pas à craindre le diable, car il a été vaincu par le Seigneur. Et l'apôtre Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La foi n'a rien à voir avec la superstition et la peur. La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Notre Dieu nous aime et nous a fait grâce en son Fils. Il est l'auteur de toute grâce, comme nous l'avons déjà lu dans la lettre de Jacques. C'est lui qui nous affermira. Paul le demande à Dieu en Thessaloniciens au chapitre 2, « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. À Dieu soit la puissance. C'est le désir de tous les adorateurs de Dieu que nous retrouvons dans l'Apocalypse au chapitre 7. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » C'est aussi notre prière, notre souhait, notre adoration, que Dieu soit adoré, reconnu, sa gloire reconnue, sa puissance affirmée. Au verset 14, l'épître se termine par ce souhait de paix. Bien qu'il en soit de même parmi nous. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ.